Le conflit syrien est un conflit qui a changé le monde, dont les répercussions en termes d'équilibre géopolitique mondiaux sont sans précédent. Et c'est pour moi la guerre qui ouvre le 21e siècle.
Effraction, le podcast, vous fait découvrir 5 romans du festival Effraction qui explorent les liens entre littérature et réel. La 3e édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 24 au 28 février 2022. Dans cet épisode, Jérémy, bibliothécaire à la BPI, reçoit la journaliste Sophie Nivelle-Cardinal pour parler de Mahmoud ou la montée des eaux d'Antoine Wauters. Jérémy.
Le vieux Mahmoud plonge dans l'eau du grand lac Hafez, un lac artificiel qui a tout submergé pour faire de la Syrie un rêve de modernité et de prospérité. Et nous plongeons avec lui, dans sa mémoire blessée, dans ses beaux souvenirs, dans ses deuils et dans ses joies. Car ses enfants, ses parents, son village, son métier, ses amours ont été engloutis par l'eau du lac, par le temps qui passe et surtout par la dictature et la guerre qui ont fait l'histoire de la Syrie sous le règne des El-Assad, père et fils. En peu de mots et en peu de pages, Antoine Wauters déroule une véritable complainte en forme de poésie en prose, celle d'un homme qui, au crépuscule de sa vie, voit défiler son passé. C'est un récit poignant qui permet d'une façon très personnelle et très imagée d'appréhender de la manière la plus littéraire et la plus sensorielle une réalité dure, douloureuse et complexe, mais qui contient aussi sa part de liberté et d'amour. Le conflit syrien est forcément de nature complexe, basé sur une histoire dont chaque élément peut apporter un point de vue, une lecture, un regard. En quoi votre travail de journaliste s'attache-t-il à rendre compte de cette complexité ? Et est-ce que cela le rend d'autant plus difficile, d'autant plus complexe lui-même ?
Sophie Nivelle-Cardinal, grand reporter en Syrie et prix Albert-Londres 2016.
Le conflit syrien n'est pas un conflit syrien complexe en soi. C'est complexe parce que comme tous les conflits qui durent depuis trop longtemps, ça devient des histoires complexes. Cette idée que l'Orient serait forcément complexe, c'est un peu une idée orientaliste et romantique. Tous les conflits qui durent longtemps deviennent des conflits complexes. Après, la difficulté aussi, la complexité qui a été ce conflit, c'est l'accès. L'accès a été très très difficile pour les journalistes étrangers, pour les observateurs étrangers. Mais cette histoire de ce conflit, au début d'ailleurs, c'était pas un conflit. En 2011, c'est un soulèvement populaire, des manifestations, et c'est d'abord une répression sanglante dès le début. Et puis on passe en 2012, été 2012, à un conflit entre deux camps. Donc là, on est dans une histoire très simple, finalement. Et puis après, parce que le conflit dure, en 2013-2014, on a d'autres acteurs, d'autres protagonistes qui arrivent, que ce soit le PKK, qu'on appelle YPG, et puis Force démocratique syrienne, que ce soit l'État islamique en 2013-2014. Donc là, on est dans un conflit plus complexe parce qu'il y a plus d'acteurs, parce qu'il y a aussi des territoires avec des réalités très différentes, à Alep ou à Tabqa, à Raqqa, Tabqa qui est cette ville très très proche de Raqqa où se déroule le roman d'Antoine Wauters. Eh bien, il y a une autre réalité qu'à Damas, à Homs ou à Alep. Et ce qu'on voit dans ce roman, c'est que effectivement, on a une forme d'épaisseur de toutes ces histoires, de cette complexité, parce que de temps en temps, on a un soldat des forces démocratiques syriennes, un membre de l'État islamique, on entend les combats, on parle des soldats du régime aussi, on parle de la police, des forces de sécurité. Mais dans ce roman, il me semble que la Syrie n'est pas... Enfin, ce qui se passe, cette guerre, cette dictature, c'est pas seulement un contexte, c'est pas seulement là où se déroule l'histoire, c'est aussi, pour moi, le véritable personnage du roman, et que ce chant d'amour de Mahmoud a... la femme aimée à Sarah, c'est un chant d'amour à cette Syrie qui a été détruite, qui a disparu et qui a été partie intégrante de sa vie et partie intégrante de l'histoire. Quand Mahmoud raconte sa vie, quand Mahmoud, on plonge dans la vie de Mahmoud avec ses différents éléments, ses soldats, ses combats, la police, en fait, Tabqa, là où ça s'est passé, là où ça se passe, en tout cas la fin de sa vie, la fin de ce récit, là où se chante sa vie, finalement, c'est un endroit qui a été traversé par différentes forces politiques. Avant 2011, c'est la dictature. mais c'est la ville, Raqqa, c'est la capitale provinciale la plus éloignée de Damas. Et ça compte. Et d'ailleurs, en 2011, quand il y a les soulèvements, quand il y a une armée syrienne libre qui se crée, ça a été la capitale provinciale qui, la première et la seule, a été entièrement libérée des forces du régime.
Pour élargir un petit peu le spectre, vous qui avez couvert différents terrains en tant que journaliste, de différentes guerres, différentes situations de conflit, en quoi le conflit syrien et la guerre civile syrienne vous paraît-elle spécifique? En quoi peut-elle nourrir spécifiquement la fiction, le travail de journaliste? Finalement, pour vous, la guerre syrienne est-elle unique en son genre?
Le conflit syrien est un conflit qui a changé le monde, dont les répercussions en termes d'équilibre géopolitique mondiaux sont sans précédent. Et c'est pour moi la guerre qui ouvre le 21e siècle ou qui ferme le 20e siècle. Et les conséquences de ce qui sont passées de ce conflit syrien, par exemple, 2013, quand il y a Barack Obama qui. Les Occidentaux qui partent d'une ligne rouge, la ligne rouge, c'est l'utilisation des armes chimiques. Et quand cette ligne rouge est franchie et qu'il ne se passe rien, ce qui va se passer 6 mois plus tard, c'est que les Russes se rendent bien compte que les Occidentaux ne font rien et ils annexent la Crimée. Ça, pour moi, ça découle de ce qui s'est passé en Syrie. Quand il y a une milice qui s'affirme et qui utilise le vide du pouvoir et le vide laissé par cette guerre civile et les opportunités, et que cette milice devient un état terroriste, une organisation terroriste sans précédent, une organisation inédite, les conséquences, les répercussions sont dans nos vies. Il y a des attentats qui sont passés au Bataclan, des attentats qui sont aussi inédits dans l'histoire de la France, même si Paris a connu beaucoup d'attentats. Et les conséquences, après, sont inédites. Donc, ce conflit syrien est un conflit qui a changé le monde à bien des égards. Et ce conflit syrien n'a plus rien à voir avec les Syriens, finalement, aujourd'hui. Et très vite, ça leur a échappé. Donc, au bout de 2 ans, 3 ans, les protagonistes ne sont plus les mêmes. Les protagonistes les plus importants, quand vous allez couvrir la bataille de Raqqa, on ne raconte plus l'histoire des Syriens. On raconte l'histoire de 2 organisations qui n'étaient pas là au début du conflit syrien. L'État islamique et les forces kurdes du PKK, en fait, qui est une organisation qui vient de Turquie, etc. Donc là, ces deux forces, 6 ans après, ce n'est plus la même histoire. Donc ce conflit, oui, pour moi, est un conflit qui a changé le monde, dont les répercussions ne se limitent pas au territoire syrien et dont, à mon avis, on n'a toujours pas encore... ce conflit n'est pas terminé. Donc, en termes géopolitiques, il va encore se passer des choses. Et on voit très bien que chaque conflit a sa spécificité. Ce n'est pas parce que souvent, on a la perception que parce que ça se passe au Moyen-Orient, ce Moyen-Orient qui a l'air si compliqué, où il y a le conflit israélo-palestinien depuis des décennies, où il y a eu une guerre en Irak, depuis finalement plusieurs décennies aussi. Mais la guerre en Irak n'est pas la guerre en Syrie. La guerre en Syrie n'est pas la guerre du Liban. La guerre à Gaza n'est pas la guerre en Libye. Et ces deux conflits n'existaient pas avant la dernière décennie, avant les printemps arabes, qui sont... Le conflit syrien, le conflit libyen, sont des conflits différents avec des tenants et des aboutissants différents.
Donc dans Mahmoud, dans le roman d'Antoine Wauters, il est beaucoup question de la dictature syrienne au temps de Hafez al-Assad, du père. En quoi cette page très dure, très longue de l'histoire de la Syrie, mais parfois méconnue parce qu'elle a été aussi peut-être happée par l'histoire récente, vous paraît-elle contenir déjà tous les germes du conflit, toutes les conditions de cette guerre qui dure depuis près de 10 ans?
La dictature de Hafez al-Assad et la dictature de Bachar al-Assad, en fait, c'est la même dictature, c'est la même histoire. Donc, évidemment, si on comprend encore mieux ce conflit, on comprend encore mieux cette dictature, si on sait qu'à Hama, il y a eu une révolte, un soulèvement qui a été réprimé en 3 semaines, où il y a eu 3 semaines de pilonnage de la ville, où on ne sait pas si... 20 000 personnes ou 100 000 personnes ont été tuées et qu'après ça, c'en était terminé. Et que finalement, quand Bachar al-Assad, quand le régime syrien en 2011, en 2012 et toutes les années suivantes assiège, pilonne les villes, elle utilise exactement la même tactique que cette dictature a toujours utilisée. Et c'est le même clan qui est au pouvoir, Bachar al-Assad et l'héritier de son père là, et l'héritier de la dictature syrienne dont... On pense qu'elle est méconnue, mais en fait, pas du tout. On sait en 2011, quand même, quelle est la nature de ce régime. C'est un régime qui a occupé pendant 25 ans le Liban, qui a été quand même étudié par notamment Michel Seurat, donc qui est connu aux yeux du grand public pour avoir été otage avec d'autres avec des journalistes au Liban. Michel Seurat, ses articles de sociologue, de sciences politologues, parlent d'un état de barbarie, d'un état dont la clé de voûte est la violence. Donc cette dictature est connue et c'est la même histoire. Ce n'est que la continuité de ces méthodes utilisées, de la violence utilisée, d'une dictature, d'un état policier qui s'appuie sur des services de sécurité, qui s'appuie sur la torture, qui s'appuie sur la violence pour contrôler sa population. Et dans Mahmoud et la montée des eaux, Mahmoud, sa vie est aussi conditionnée par ça, par l'absence de liberté, par la répression, par la prison. Et c'est une histoire syrienne. Toutes les familles syriennes, même avant 2011, même avant la révolte, même avant la guerre, a une histoire de torture, a une histoire de répression, a une histoire d'arrestation. On était dans une dictature très très dure, très 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 dure. Donc c'est la même histoire.
Justement, ça permet d'éclairer un petit peu le roman d'Antoine Wauters, qui lui a une autre manière de décrire ce paysage, ces mémoires. Donc, il utilise beaucoup la poésie, l'image pour rendre compte de certaines réalités, parfois dures, parfois complexes. Comme vous le disiez, dans votre travail, et notamment documentariste, vous cherchez à montrer cette réalité de la manière la plus directe, la plus honnête ou la plus transparente possible. Ces deux approches, poétiques, fictionnelles et documentaires, journalistiques, vous paraissent-elles complémentaires et en quoi elles sont différentes et en quoi elles vous intéressent pour appréhender cette histoire ?
Le journaliste et le romancier, on fait pas le même travail, même si on raconte en fait des histoires, même si c'est un reportage au JT ou l'info le matin, en fait on raconte une histoire. Mais nous on est tenu au vrai, le romancier est tenu au vraisemblable. Est-ce que ce que raconte Antoine Wauters est véritablement arrivé ? Peut-être, mais c'est le vraisemblable, ce n'est pas vrai. Nous, on ne peut pas s'en tenir au vraisemblable. On doit raconter le vrai, on doit témoigner de ce qu'on voit, on doit décrypter. En fait, notre travail, c'est d'informer. Donc, on fait pas tout à fait la même, on n'a pas tout à fait la même activité. La richesse de la littérature, c'est ça, c'est justement nous emmener dans des mondes qui ne sont pas les nôtres. On se prend au jeu, c'est-à-dire que Antoine Wauters raconte cette histoire. Enfin, le narrateur n'est pas Antoine Wauters, le narrateur est Mahmoud. On a des voix parfois polyphoniques, on entend Sarah. La richesse de la littérature, c'est de nous emmener et de nous emmener dans ces mondes-là. Nous, journalistes, reporters, documentaristes, on raconte le réel et on est tenus au vrai. On ne peut pas spéculer, on ne peut pas imaginer. Et donc, ce n'est pas tout à fait le même travail. Est-ce que ça renseigne le monde ? Oui. Évidemment, est-ce qu'on peut se contenter seulement du récit journalistique pour comprendre ce qui se passe ? Non.
Au début, les premières secondes, je touche toujours mon cœur pour vérifier qu'il bat, car j'ai le sentiment de mourir. J'ajuste mon masque, me tenant à la proue. Je fais des battements de jambes. Le vent souffle fort. Il parle. Je l'écoute parler. Au loin, les champs de pastèques, le toit de la vieille école et des fleurs de safran. L'eau est froide malgré le soleil et le courant est chaque jour plus fort. Bientôt tout cela disparaîtra. Crois-tu que les caméras du monde entier se déplaceront pour en rendre compte ? Crois-tu que ce sera suffisamment télégénique pour eux, Sarah ? Qu'importe. Agrippée à la proue, je vois mon cabanon, une vache qui paît en dessous des arbres, le ciel immense. Tout est loin, de plus en plus loin. J'enfile mon tuba. Je fixe ma lampe frontale afin qu'elle ne bouge pas. et je palme, lentement, pour maintenir mon corps d'aplomb. Je prends ensuite une grande, profonde respiration et tout ce que je connais mais que je fuis, tout ce que je ne supporte plus mais qui subsiste, tout ce qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait jamais demandé, je le quitte. Une sensation exquise, la meilleure. Bientôt, je coule, je disparais, mais je n'ai plus peur, car mon cœur s'est habitué. L'eau me porte, pleine de déchets, je les ignore. Des algues mortes, je les ignore. Je ne veux rien voir de la nuit. Tout est jaune et vert trouble à ces grandes profondeurs. L'eau, de plus en plus froide, pure. Si j'éteignais ma lampe, il ferait noir. Et en dehors des bulles d'air que je relâche parcimonieusement et du plancton tout contre moi, il n'y aurait rien.
Cet épisode a été préparé par Jérémy Desjardins. Merci aux éditions Verdier. Lecture par Caroline Girard. Réalisation Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.